Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Julien Durand, le cofondateur de Picture, le nouvel acteur important du paysage action outdoor en France. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit comme ça, tu me diras un petit peu quel est le périmètre. Bah, une marque qui est responsable, hein, très engagée, puis qui donne envie. Je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci.
Alors justement, on va peut-être commencer par là. Finalement, vous couvrez quoi comme secteur de mode responsable ?
Donc, alors Picture, c'est une marque qu'on a créée avec mes deux amis d'enfance, Jérémy et Vincent. Et on l'a créé en étant des passionnés de ski, de snowboard, de skate. Donc, on l'a créé sur un environnement action sport. Mais on a tout de suite gravité depuis le départ dans le monde de la montagne et du surf. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'action outdoor, parce que c'était une vision de l'outdoor sur les codes visuels, les codes dans le langage, etc., de l'action sport. Et c'était une vision très progressive et inclusive de l'outdoor.
Et il y avait quoi à l'époque ? Il y avait d'autres marques existantes ?
Donc, il y avait des marques comme Ruka, qui était assez intéressante. Il y avait des marques comme Rorke, qui est une marque américaine aussi.
C'est même,
marque
ça reste un peu niche quand même, finalement.
Exactement, c'est un paysage de niche. Parce que ouais. North Face était très traditionnel outdoor. North Face s'est tourné aujourd'hui vers la mode plus que vers l'outdoor, même s'ils gardent leur ADN. Des marques comme Patagonia se sont fait approprier par la mode en étant des marques d'outdoor. Et c'est assez marrant le parallèle avec Patagonia, parce que finalement, quand on a créé la marque en 2008, on avait envie de créer le Patagonia pour les 15-25 ans et avec une vision de la marque inspirée de Burton Snowboard, qui était une marque de snowboard qui nous inspirait. Et on s'était dit, bah, Patagonia, c'est la marque de mon père. Moi, je veux l'engagement de Patagonia et la coolness de Burton Snowboard. Et c'est comme ça qu'est né Picture.
Et tu t'arrêtes vraiment à 25 ans ou tu penses qu'on peut toucher plus ?
Non, et puis tu vois, la marque a vieilli avec nous. On est un petit peu plus vieux maintenant. Mais l'objectif, c'est quand même toujours de se dire qu'on est sur une type de clientèle de 15 ans à 35 ans. En termes de communication, même si on sait que bah, tu vois, j'ai 41 ans, je ne veux pas vieillir, je continuerai de consommer des produits pour les 35 ans.
Et mais est-ce que dès le début, vous étiez engagé ? C'était vraiment le positionnement de te dire, bah, voilà, moi, je vais faire un Patagonia justement pour les plus jeunes.
L'engagement, il vient de Jérémy, un de nos associés, ouais. Qui était architecte. Donc lui, il a toujours travaillé à créer des maisons éco-conçues, donc dans un business familial. Hein, son père architecte, son frère architecte. Et donc, il faisait des maisons passives déjà à l'époque. Et quand je suis arrivé avec l'idée, je lui ai dit, écoute, moi, bosser chez Coca-Cola, puis Virginia Schweppes, ça donne peu de sens d'augmenter le nombre de litres par an par habitant consommés par les Français. J'aimerais vraiment donner du sens et bosser dans une industrie qui me passionne. Et c'est là où Jérémy il me dit, bah, écoute, moi, cette marque à laquelle tu penses, je suis partant. Par contre, si on la crée, 100% doit être en bio, en recyclé. Et si on ne peut pas faire le produit comme ça, on ne le fait pas. Et ça, c'est l'engagement que je veux vraiment qu'on véhicule depuis le point zéro. Et si ce n'est pas le cas, je reste dans la boîte d'architecture familiale.
Et en 2008, comment tu as fait pour trouver toutes ces ressources ? Parce qu'il n'y avait pas autant de bio, pas autant de recyclage. Enfin, tu n'avais pas tout ça, tu n'avais pas toutes les filières qu'on a aujourd'hui, matures comme aujourd'hui.
Bah, en 2008, ça a commencé d'abord avec le coton bio. Donc, on s'est dit, bah, comment on va aller chercher le coton bio ? On n'avait aucune expérience du textile. Donc, on s'est dit, bah, on va aller voir les certificateurs. Donc, Fairtrade, Control Union avec GOTS, Global Organic Textile Standard. Donc, sur leur site internet, il y avait la liste des producteurs qui produisaient du bio. Et donc là, on s'est dit, bah, on va aller pas trop loin de la France parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à intéresser des gens ailleurs. On va aller en Turquie. Et la Turquie produit son coton. C'est un énorme fabricant de coton planétaire. Ils font du produit à façon. Ils bossent déjà pour des grands groupes comme Zara, H&M, Decathlon. Donc, on s'était dit, ils doivent avoir le savoir-faire. Donc là, on a pris 10 rendez-vous avec 10 entreprises certifiées. On a loué une voiture à Istanbul. On s'est fait toute la descente de la côte jusqu'à Izmir et on a visité les gens un par un. Et on n'avait aucune expérience. On avait 25 ans, nos petites têtes de minées. On s'était habillé en costard, ça ressemblait à rien. On s'est mis, les gens, maintenant, quand on a le recul sur nos premières rencontres, on en rigole.
Ah, putain, t'incarnais la marque, hein. J'ai envie de dire, au moins, t'incarnais la coolness de la marque. Il devait se dire, ah oui, d'accord, ça va être ça.
Non, et puis voilà, donc ces gens-là, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est des partenaires. Donc 15 ans après, c'est nos partenaires de business pour fabriquer le coton. Sur la partie vêtements techniques, le polyester recyclé, c'était assez nouveau, mais ça existait. Et donc là, on avait bossé avec un tisseur vosgien. Donc à l'époque, c'était un tissu français et qui était produit dans les Vosges. On travaillait avec une société de conception et de modélisation de produits techniques qui s'appelle Jonathan Fletcher, qui sont à Annecy. Donc eux, c'est des gens qui ont travaillé pour Salomon, pour Rossignol, pour Burton, pour Orelsan dernièrement avec Avnier, pour Louis Vuitton. Donc c'est des gens qui vraiment font du produit technique pour une palette de clients extrêmement large. Et ces gens-là, le fondateur Georges Pesset, il nous a vu arriver et nos premiers dessins, c'était des plans cotés d'une veste comme une maison d'architecte. Ah. Parce que Jérémy, qui dessine tous nos produits, il avait coté ça parce que son savoir-faire, c'était l'architecture. Et donc, il avait une approche qui était complètement différente des fashion designers traditionnels. Donc, il a eu le coup de cœur, il nous a pris sous son aile. Et puis nous voilà partis avec lui. Il m'amène, moi, en usine qui représentait la face industrielle de la marque. Et puis, il m'a appris comment fabriquer des vêtements techniques, ce sur quoi il fallait prêter de l'attention. Et puis, 2-3 ans après, on a pris notre envol et puis on a plus eu besoin de lui.
Et donc là, maintenant, vous avez tout intégré ?
Donc là, on a intégré une bonne partie. Donc, le textile, il faut quand même garder en tête qu'il y a une vraie logique de sous-traitance. Hein. Même des North Face ou des Patagonia, ils ne sont pas propriétaires de leurs usines. Donc, en interne, on développe essentiellement des prototypes, on crée des concepts. Et derrière, on va, avec les ateliers des usines, regarder l'industrialisation du produit, voir comment elle peut se déployer et se mettre en place. Et donc, c'est avec les usines qu'on bosse main dans la main. Et les usines sont des partenaires aussi importants que la marque.
Et en fait, est-ce que... Au moment de la création de la marque, les coûts, justement, étaient très élevés, comme il n'y avait pas beaucoup, de Made in France, etc.
Donc là, la matière première était vachement élevée. Donc la matière première, le coton biologique, c'était 30 à 35% plus cher que du coton conventionnel. Le polyester recyclé était 30% plus cher que du polyester conventionnel. Et ce qu'on s'était dit, vu que ça vaut beaucoup plus cher, suite à une étude qu'on avait faite juste avant de se lancer, donc on a fait une étude sur 1000 consommateurs, on leur avait demandé... est-ce que consommer un produit bio dans le textile, c'est important ? 90% nous disaient « Oh, c'est de la mode, c'est pas très important, mais c'est cool. » Est-ce que vous êtes prêt à payer 5, 10 ou 0% plus pour l'acheter ? Et à l'unanimité, c'était 0% parce que c'était
ça.
De la mode.
En 2008, c'est ça ?
En 2008, ouais. Et donc, sur cette base-là, on s'était dit on a une vraie valeur ajoutée à le faire parce qu'aujourd'hui, les gens y sont sensibles. Mais d'un point de vue porte-monnaie, ils ne sont pas prêts à payer plus. Donc, on doit se positionner au même prix que nos concurrents directs, qui étaient North Face, Patagonia, Burton. Et on doit vendre le produit pour sa valeur intrinsèque. Ça veut dire que nous, en ayant des coûts d'achat beaucoup plus importants, ça veut dire qu'on ne va pas faire de marketing. Et on va se dire, on devient une marque sans marketing. Et la valeur intrinsèque du produit, ce sera notre marketing.
Ah, donc, en fait, vous avez gelé le budget du marketing, finalement, pour le mettre dans le vêtement, quoi.
Voilà, donc en fait, on a écrit le business plan, surtout comme ça, en se disant, le marketing n'est pas partie prenante du business plan.
Peut-être fallait que chacun devienne ambassadeur de Pitcher.
Exactement. Alors, on a eu une chance inouïe à l'époque, hein, puisque le contexte faisait que les réseaux sociaux naissaient. Facebook avait des algorithmes gratuits. On remontait en tête de Facebook dès qu'on publiait à 10h, à 10h01, on était premier.
Ouais, parce qu'en fait, la marque incarne le cool, donc finalement... Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des stars, entre guillemets, qui ont incarné la marque ?
Dans nos disciplines, oui. Des stars du snowboard, du ski, même de l'escalade, du parapente. Dans les sports outdoor, on a eu parmi les meilleurs mondiaux qui ont porté et qui portent pour certains encore la marque. Donc ça a vraiment aidé dans notre microcosme de l'outdoor. Et ensuite, certaines personnes aussi se sont appropriées les valeurs de la marque. Et ça s'est fait sur le tas. Un Guillaume Canet qu'on voit sur les réseaux sociaux avec un t-shirt Pitcher.
Il n'a plus du tout entre jusqu'à 25 ans, mais tu vois, quoi.
Mais pour le coup, on a beaucoup d'admiration pour ce genre de personnes. Marion Cotillard, pareil. Ouais. Quand on voit ces gens-là avec un produit Pitcher, on se dit c'est génial. Et puis tant mieux, on prend.
Et là, est-ce que maintenant, tu t'y retrouves plus, justement ? Est-ce que c'est moins cher aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, on a toujours un delta prix qui est important,
ouais,
mais qui reste beaucoup plus petit qu'à l'époque. Tu vois, on est autour de 10% de coût de produit en plus. Après, ce qui va coûter plus cher, c'est toute la dimension sociale que tu mets derrière. Quand on s'est lancé, on avait attaché beaucoup d'importance à la matière première et un petit peu moins à l'aspect social parce qu'on n'avait pas conscience des problématiques sociales qu'il y avait derrière au niveau des travailleurs. Et puis, ce chemin faisant, on a travaillé avec Fairware, qui est un label de certification et d'audit sur la dimension sociale. Donc, ils nous ont appris à comprendre ce qu'il fallait vérifier. Donc, ce qu'ils appellent les living wage, donc c'est le seuil en dessous duquel les salariés ne devraient pas être payés pour avoir une vie décente là où ils habitent. C'est ce qu'on appelle l'overtiming, donc c'est les heures supplémentaires qui sont rémunérées, mais pas forcément rémunérées avec des tarifs heures supplémentaires. C'est et puis après, les conditions traditionnelles, travail des enfants, l'esclavagisme, etc. Il s'avère que là où on produit, on n'a jamais été sujet à quelques doutes que ce soit. Mais à l'inverse, sur la partie overtime, sur la partie living wage, là, on n'était pas forcément sensibilisé.
Et puis, vous ne saviez peut-être pas, du coup, vous n'avez pas moyen de contrôle.
Non, mais c'est pour ça qu'on s'est adossé à un organisme. Parce qu'en étant petit, finalement, le seul moyen pour toi de te sécuriser, c'est de te dire, je prends quelqu'un dont c'est le métier, qui va faire le job pour moi. Et normalement, étant un Européen qui va auditer des usines partout dans le monde, il devrait avoir un regard objectif et pouvoir nous aiguiller. Et surtout, il bosse en conglomérat, donc en bossant avec d'autres marques, dont des grosses, hein, comme Adidas ou des gens comme ça. Il a aussi l'expertise de ce qui peut se passer à grande échelle. Il connaît les problématiques de sous-traitance, parce que certaines usines avec qui on travaille vont sous-traiter une production parce qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils veulent absolument le contrat, donc ils vont le faire moins cher en sous-traitance quelque part sans qu'on le sache, puisque nous, c'est cette usine qui nous facture et qui nous fait croire que c'est elle qui a fait le produit. Et donc là, il y a une vraie vigilance à avoir. Et cette dimension sociale, c'est un paramètre qu'on n'avait pas pris en considération à la création de l'entreprise et qui aujourd'hui est un paramètre super important. Et on a embauché une ressource dédiée à ça chez nous. Et donc, on a une ressource qui est vraiment chargée de la dimension RSE environnement et une ressource sur la partie sociale.
Hyper intéressant. Et j'imagine que aussi maintenant, à ton questionnaire, est-ce que bio, tu mettrais 5-10 euros, tu as peut-être un peu plus de personnes qui sont prêtes à investir pour un vêtement plus responsable aujourd'hui.
Alors, je vais te dire oui. Je vais te dire oui dans le monde de l'outdoor dans lequel on gravite, parce qu'on a des gens qui sont vraiment hyper sensibles, et puis c'est leur terrain de jeu.
Exactement.
Mais à l'inverse, dès qu'il s'agit de mode, et quand on voit quand les marques partent dans la mode, donc un North Face, un Pata qui se fait adopter par la mode, bah ces consommateurs-là, aujourd'hui, ils vont attendre quoi? Ils vont attendre la Sole, le Discount, etc. pour se l'accaparer, se l'approprier.
Il y a encore un travail à faire, en fait.
Ouais, il y a un énorme travail. Alors, je ne veux pas, moi, jeter la pierre sur des marques comme Shein, mais si on regarde Shein, typiquement, 15 ans...
Tu peux avec moi, tu peux. Je n'ai pas de tabou à ce sujet-là. Tu as le droit pour cette marque.
15 ans d'existence, 22 milliards. On fait du cheap, du bas prix, on pousse la consommation de masse. Et là, on a une clientèle de 15-25 ans qui se jette dessus.
Oui,
ça nous étonne.
Bah non, mais en fait, c'est le pouvoir d'achat. En fait, ils disent, je vais acheter en fait 12 t-shirts. Ils vont se sentir les rois du monde avec 12 t-shirts qui vont durer une journée. Et non, mais c'est le problème. Donc, et ils arrivent à toucher ces personnes-là. Mais oui, parce que c'est...
Mais en tout cas, voilà, quand tu regardes les croissances de ces gens-là versus un Patagonia qui, en 50 ans, fait un milliard... Bah, ils ont eu une croissance organique, saine, basée sur la qualité, la durabilité. Et donc, c'est des modèles économiques qui changent.
Puis jusqu'à la fin de la vie de la marque. Hein. Tu as vu ce qu'il a fait quand même. Patagonia, c'est vraiment un bel exemple. Hein. Un bel exemple qu'on peut être une marque avec de vraies valeurs et qui incarne ça jusqu'au bout. Quoi.
Ouais, clairement. De toute façon, j'ai envie de te dire, nous, c'est un benchmark qu'on a depuis le début. Et quand je te disais, c'est la marque de mon père qui devient la mienne aussi, maintenant. Mais en tout cas, c'est une marque qui nous a toujours inspiré dans ses valeurs et dans ses fondements profonds.
Et donc là, maintenant, comment tu réinventes la marque aujourd'hui? Puisque 2008, ça fait quand même un petit bout de temps. Hein. Donc, il y a des nouveaux produits, j'imagine, mais il y a aussi des nouvelles façons de faire.
Ouais, du coup, la marque, elle s'est réinventée sur, on va dire, trois grands piliers. Hein. Un pilier produit, évidemment. Un pilier marketing, parce que la stratégie du départ ne peut pas durer dans le développement. Et ensuite, un pilier environnement-climat. Et donc là, sur le pilier gamme, là, on a travaillé à notre recentrage sur les sports qui constituent Picture. Donc les sports, c'est donc le ski, le snowboard, l'hiver, le hiking.
Ça va durer un petit peu, ça. Parce qu'on a un peu peur avec le réchauffement climatique. Hein.
Écoute, on verra ce que ça durera. Ouais. Après, nous, on travaille énormément sur la partie trekking, hiking, aventure. Donc l'aventure, c'est vraiment là où on s'est focalisé maintenant depuis 2018 et où on pousse très très fort. On a le surf, où là, pareil, c'est relié aussi à l'aventure, mais avec une vraie communauté surf, on va dire, océan, tout autour du monde. Et donc, sur ces trois grandes activités, ces trois grands piliers, on essaye de déployer et de développer la marque. Donc, on a arrêté d'aller chercher des clients dans le para pendant l'escalade, à essayer de jouer un petit peu sur toutes les niches de marché où on avait des opportunités. Donc là, on s'est recentré en se disant stop à l'opportunité. Maintenant, on assume notre identité. Et que ces gens-là nous consomment, c'est un plus pour nous. Mais par contre, on ne doit pas essayer d'aller manger à tous les râteliers. On reste vraiment le droit dans nos bottes.
Et niveau fabrication, il y a un programme sur la circularité, je crois, qui est mis en place, non ?
Exactement. Donc là, niveau fabrication, c'est un sujet hyper clé parce que on a toujours les questions du pourquoi pas assez de Made in France, pourquoi pas suffisamment de Made in Europe. Donc là, on explique aussi qu'il y a des problématiques de modèle économique. Donc on part d'une problématique et ensuite on essaye de la résoudre. Donc le modèle économique de la marque, c'est de vendre à des magasins comme au Vieux Campeur, comme Galerie Lafayette, comme des acteurs de l'outdoor et du prêt-à-porter. Et donc, ces gens-là, ils vont nous demander un niveau de marge pour pouvoir payer leur loyer et leurs employés. Donc, si on achète un produit 10, il va falloir que nous, on le vende 18 pour payer nos frais et nos employés. Et lui, il va devoir le vendre deux fois ce prix-là. Donc, 36, tu rajoutes la TVA, tu es à 40 euros. Donc, si on prend l'exemple d'un T-shirt, on va l'acheter 10 euros en bio, il va se vendre 40 en magasin. Mais la création de la valeur, elle est x3. Pour un consommateur final.
Et en ligne. Et du coup, tu peux le mettre en ligne.
Tu peux le mettre en ligne directement.
Après,
tu
as les coûts aussi de livraison.
Après, historiquement, notre site internet en ligne n'a pas été la priorité de notre développement. Oh, okay. On s'est développé par des réseaux de magasins. Et les réseaux de magasins, aujourd'hui, c'est 2500 détaillants à travers le monde qui revendent Pitcher, essentiellement des détaillants spécialisés de l'outdoor. Et on a finalement un peu bénéficié d'un effet d'aubaine. C'était la mise en ligne de tous les gros qui devenaient les concurrents de leurs distributeurs. Ça laissait des places en rayon parce que le distributeur, étant un petit peu en ballottage avec cette situation, ouvrait la porte à des nouvelles marques. Et du coup, nous, ça nous a fait exister. Donc, cette stratégie du online est arrivée beaucoup plus tard parce que grâce à ça, on prenait des positions et des parts de marché et on a pu faire grandir la marque et la faire exister parce qu'on n'était rien finalement à l'époque grâce à ce phénomène-là. Mais maintenant, quand le online est vraiment à son apogée chez tout le monde, chez nous, il est naissant. Donc la stratégie, elle est à deux vitesses là-dessus. Donc, on est en train d'accélérer sur le online parce qu'on sait que c'est toute l'expérience client, c'est tout le storytelling qu'on est capable d'amener. C'est aussi toute l'information qu'on est capable de feeder grâce à la data des consommateurs. Notre principale, problématique aujourd'hui, c'est que les consommateurs ne connaissent pas suffisamment tout ce qu'on fait derrière la marque. Et on appelle ça les shadow actions, donc toutes les actions de l'ombre. Et ces actions de l'ombre, elles sont diverses et multiples, mais tu ne peux pas tout raconter. Mmh. Donc, tu me parlais de circularité tout à l'heure. Dans la logique de sobriété, si on se dit dans la map globale, si demain, on veut devenir une entreprise régénérative et pas rester au stade d'entreprise contributive, on se doit d'aller plus loin en termes d'approvisionnement. Donc on va essayer de sortir de la matière vierge et rentrer dans une logique de circularité de matière, puisqu'on a créé suffisamment de déchets pour déjà essayer de les recycler.
C'est vrai. Donc, pas tous, mais en partie.
Pas tous, ouais. Mais en partie, parce que le textile, c'est même pas 10% des déchets textiles qui sont produits, qui sont recyclés, et les autres sont en enfouissement ou en incinération.
Et en plus, c'est l'un des plus faciles, mais c'est vrai que le textile, c'est assez simple à recycler, in fine.
Alors, oui et non. Le coton, je vais te dire, mais si on parle de produits synthétiques, le polyester constitue quand même 80% des produits textiles de la planète, ça devient un petit peu plus complexe. Mmh. Et donc là-dessus, on a lancé un programme qui s'appelle Circular chez nous. Donc, c'est un programme où on utilise de la fibre issue du recyclage de textiles. Et alors, ce n'est pas nos propres textiles collectés. Là, c'est des textiles collectés de manière générale. Et on achète, nous, des granulés de polyester, donc qui ont été refaits à partir de ces déchets, pour en extraire du fil et retisser, retricoter nos produits.
Et est-ce que c'est une innovation que vous avez mis en open innovation ou vous l'avez gardée pour vous ?
Alors, là, les grosses innovations qui sont du domaine du composé lui-même, c'est des innovations industrielles qui doivent se déployer à une telle échelle que nous, on ne pourrait pas. Dans le projet, il y a Decathlon, il y a H&M, il y a Patagonia, il y a nous, il y a Adidas. Okay. Donc, c'est un projet d'envergure. Top. Donc là, on a l'agilité d'aller plus vite en lancement de marché. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est les premiers.
Mais les autres vont suivre.
Voilà, et puis tant mieux, c'est une super chose.
En fait, je trouve ça génial que vous soyez plusieurs. Et quand tu sors en plus des marques comme H&M, ça met du baume au cœur parce que c'était pas une marque comme ça, on se dit un peu.
Non, c'est vrai, fashion. C'est vrai.
Bah, c'est cool, non, mais tu vois, c'est cool, c'est bien. Voilà, on se dit on va dans le bon sens quand même.
Et c'est là que tu parles de coopétition, parce que on est tous en compétition, mais à un moment on peut coopérer sur certains projets. Et sur ces projets-là,
vous êtes en amont des réglementations. J'imagine qu'à un moment elles vont tomber, les réglementations qui vont s'endurcir aussi à ce niveau-là.
Pour le coup, on y bosse, parce que tu vois, dans l'engagement de la marque, on a aussi toute une partie engagement sociétal. Florian, qui est notre responsable RSE, typiquement, il donne 20% de son temps, donc payé par Picture, mais pour bosser avec l'association en mode climat. Et donc, avec En Mode Climat, ils sont en charge de travailler des projets de loi pour le gouvernement français et européen, faire des propositions projets de loi pour lutter justement contre cette fast fashion, ce renouvellement des collections, la non-durabilité des produits. Donc, sur tout un tas d'aspects différents du produit qui n'ont pas uniquement attrait à l'empreinte carbone du produit elle-même, puisque finalement, ça a peu de sens de faire un produit à basse empreinte, mais d'en produire des milliards. Et donc là, Florian bosse avec Julia Faure, qui est la fondatrice de l'association de Loom. Et donc maintenant, on est 650 membres dans l'association à œuvrer pour la mise en place de réglementations et de lois, parce que c'est vrai que c'est les réglementations qui amèneront les changements de demain.
Top, franchement, c'est top. Et c'est quoi les prochaines étapes alors pour la marque? C'est quoi vos prochains challenges? 100%,
100%. Non, là pour le coup, les prochains challenges pour la marque, ils sont doubles. Il y a un premier challenge qui est un challenge aujourd'hui, qui est un challenge, on va dire, industriel. Parce qu'au niveau de tout ce qui s'est passé avec les guerres, avec le cours du dollar qui s'est cassé la gueule, ça a rebattu un peu toutes les cartes de la map de production. Donc on se retrouve avec des problématiques où le Portugal, est, pour le modèle économique dans lequel on gravite, qui est plus viable. Donc on doit transférer vers la Turquie. On a des usines à l'île Maurice avec qui on est en train d'accélérer un peu. Donc là, on redistribue les cartes de la production. Les barrières douanières se sont endurcies aussi. On travaille beaucoup avec l'Amérique du Nord. Donc là, on est en train de travailler sur des approvisionnements Mexique et Amérique centrale pour pouvoir livrer l'Amérique du Nord et avoir un impact le plus faible possible.
D'ailleurs, tu fais l'approvisionnement comment, toi, plutôt? Tu privilégies quoi? Cargo,
Que
du cargo.
De toute façon,
tu as calculé, c'était plus, c'était moins.
Le cargo, en fait, quand tu regardes le mapping carbone de tes produits, c'est à peine 1% de ton empreinte carbone de marque. Okay. Si tu fais de l'avion, ça devient 10 ou 15.
Non, mais l'avion.
J'ai envie de te dire, ça nous arrive pour peut-être 1000 produits de faire l'avion parce que sinon, ils sont refusés, ils finissent invendus et c'est encore pire que de ne pas les avoir en magasin. Mais c'est en cas vraiment d'extrême urgence, de situation extrêmement problématique. Mais on fait à peu près 600 000 produits par an et 99,9% sont transportés par cargo ou par camion quand c'est la Turquie ou le Portugal. Et donc, du coup ouais, là, il y a des enjeux industriels. Après, il y a des enjeux qui sont des enjeux aussi, on va dire, environnementaux, puisque en tant que marque à mission, là, aujourd'hui, si tu regardes un petit peu l'évolution des marques, tu as les marques qui font le business as usual. Tu as les marques qui, derrière, vont considérer la RSE comme partie prenante d'une réflexion. Donc ça, c'est les marques durables. Après, on va avoir les marques qui vont être les marques contributives et ensuite les marques régénératives. Donc la contribution, ça veut dire que la RSE, c'est là où Picture en est, est complètement partie intégrante de ta stratégie. La performance de l'entreprise se définit grâce aussi à sa performance RSE. On a ce triptyque business, people, planet, où c'est, oui, on doit faire un chiffre, un résultat. Par contre, aujourd'hui, l'objectif, il n'est pas atteint si, au niveau environnement, on n'a pas atteint. Donc, nous, B Corp fait partie de nos critères de performance d'entreprise. Donc, cette année, on a dit B Corp 120. Donc, c'est un score que tu obtiens par rapport à tout un tas d'actions que tu mènes. Et le côté people, on cherche la certification Great Place to Work.
Super.
Et donc, l'idée, c'est de travailler sur ces éléments-là. Et ensuite, le step d'après, vers lequel on va essayer de tendre, mais ça nécessite encore des nouvelles transformations, même si on est jeune, ce n'est pas si évident que ça. C'est le modèle régénératif. Donc, ça veut dire que là, tu considères vraiment le vivant comme partie intégrante de ta stratégie. Tu vas essayer de ne laisser aucune trace sur ce que tu as généré comme empreinte. Tu n'es pas dans une logique...
Et sans compenser uniquement, quoi.
Exactement.
C'est vraiment pas juste mettre un pansement sur le truc, quoi. Et planter trois arbres, et voilà.
Ouais, la logique voudrait que tu ne sois pas dans une recherche de croissance permanente, mais dans une recherche de durabilité. Et du coup, tu peux travailler un modèle régénératif différemment. Il y a des exemples très concrets. Par exemple, on prend un fabricant de poids lourds. Il doit fabriquer des poids lourds. Et cette personne, elle va vendre des poids lourds à des clients qui sont des chauffeurs routiers qui font du transport. Il change son modèle économique. Il se dit, maintenant, Pourquoi je change mon modèle économique? Parce que mes camions, ils durent 100 000 km. J'ai tout intérêt à faire une obsolescence programmée pour qu'ils me changent des camions et que je vende des camions. Derrière, il va se dire, bah, finalement, maintenant, je vais louer mes camions et je vais être propriétaire de mes camions. Mais j'ai tout intérêt à ce qu'ils durent plus longtemps parce que la loc, ce sera plus rentable que de les vendre. Et puis derrière, il va réfléchir, il va se dire, bah, finalement, je vais peut-être arrêter de faire des leasings de camions, mais maintenant, je vais louer des trajets, des kilomètres de camions. Donc, j'ai tout intérêt à ce que mes camions, ils consomment plus d'essence. Moins d'essence. Ouais. Donc, du coup, il va retransformer ses moteurs pour finalement, lui, développer une performance économique peut-être meilleure. Mais à la fin, ses camions, ils vont durer plus longtemps, il y en aura moins, et il aura un business qui sera extrêmement viable. Et ça, c'est typiquement une transformation vers du régénératif, où chez Picture, la réflexion, en réfléchissant à l'exemple du camion, bah, c'est de se dire peut-être que demain, dans certaines pratiques outdoor comme le ski, les gens n'ont plus forcément besoin de s'équiper pour partir une semaine au ski, ils peuvent louer. Donc ils peuvent louer leur tenue. Donc en fait, on ne vend plus des produits, on vend des usages. Et une même tenue peut contribuer à 10 semaines de pratique sur un hiver de personnes qui vont au ski. Il y aura toujours les aficionados de la montagne qui passent leur vie en montagne, mais eux, ce n'est pas le problème. Eux, ils représentent finalement que 5% des clients. Mais si 95% des clients achètent un usage et arrêtent d'acheter un produit, on pourra amener des mutations. Donc, on avait lancé il y a 2 ans le service de location, qui est toujours actif, qui commence à se développer, mais on est vraiment aux prémices du projet. Il y a des sites internet comme les Petits Montagnards qui se sont développés pour essayer de diffuser ça. D'autres marques récemment s'y sont mis, comme Millet a lancé son programme de location il y a 3 mois. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça commence à émerger. Et je pense que plus on causera aux consommateurs sur le fait qu'il y a des nouvelles manières de consommer. Et ça peut être des modèles économiques qui permettent de faire muter un modèle, produire moins, continuer d'être viable. Mais tout de suite, j'ai envie de vous dire, on sort les rames parce que le consommateur n'est pas encore prêt. Donc, nous, on s'y prépare. On peut monter en charge et c'est le but du projet. Mais il y a vraiment quelque chose à faire en com voilà. Et puis changer les usages, c'est un truc très challengeant. Quoi.
Ouais, et je pense que c'est ce qui va devoir. Enfin, c'est ce vers quoi on doit tendre en fait. Aujourd'hui, il va falloir qu'on embarque aussi le consommateur. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est génial. On a hâte de voir ça. Enfin, moi, j'ai hâte de. Déjà, je trouve que la marque est quand même vraiment très engagée. Mais en plus, tu te fixes des next steps et c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de marques en plus, je crois, régénératives. Hein,
on en connaît très peu. Ouais. On en parle beaucoup. Là, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle Convention Entreprise Schema, qui nous permet vraiment de travailler sur le sujet. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'ouvre l'esprit parce qu'on n'est pas que avec des gens du textile et de l'outdoor. Mmh. On est avec des banquiers, des gens de l'industrie, des gens comme Michelin. Donc, il y a vraiment des gens qui réfléchissent dans différents spectres et on s'enrichit les uns les autres et ça permet d'essayer de bosser des nouveaux modèles. C'est des trucs assez excitants et c'est des choses où j'invite tous les entrepreneurs, en tout cas, à peut-être réfléchir puisque c'est tous les ans, ils renouvellent. Ils renouvellent l'adhésion. C'est pas une adhésion comme une association, c'est une adhésion à un programme, comme un programme scolaire. Et c'est un programme où, à la fin du programme, on doit définir un carnet de route, donc le roadbook de comment sera votre entreprise en 2025 et 2030 pour tendre vers ce business régénératif.
Super. Bah, écoute, on fait un appel à tous ces entrepreneurs qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.